Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Chapitre 5. La grâce de Dieu pour le croyant. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Colossiens 2, versets 16 à 17. Selon cette écriture, l'Ancien Testament n'était pas à l'exacte image des choses. Il n'était qu'une ombre des choses à venir. Cette manière de s'y prendre avec les hommes sous l'ancienne alliance n'était pas ce que Dieu préférait. Quelqu'un pourrait dire « Eh bien alors, pourquoi a-t-il agi ainsi? Dieu ne fait-il pas ce qu'il veut ?» Je pourrais passer beaucoup de temps à vous l'expliquer. Mais pour résumer, tout ce qui arrive ne vient pas forcément de Dieu, notamment parce qu'il a doté l'être humain d'un libre arbitre. En donnant la domination à l'homme sur terre, Dieu lui confia une grande autorité. Voir Genèse 1, versets 26 à 28. Mais l'homme déjoua son plan originel. Dieu n'a jamais voulu la transgression du jardin d'Éden, ni la période du Moyen-Âge, ni l'Inquisition espagnole, ni les chrétiens martyrisés. Dieu n'a pas orchestré ces événements. Il ne contrôle pas tout ce qui arrive. À cause de l'accès donné à Satan et à ses disciples humains, il y a des forces opposées sur cette terre. Je vous assure qu'il y a des moments où la volonté parfaite de Dieu ne s'accomplit pas. Néanmoins, un jour, toute la volonté divine se réalisera. Dieu est le vainqueur de ce combat sur terre. Il n'y a aucun doute à ce sujet. S'il devait à nouveau utiliser un âne pour annoncer sa parole, il le ferait. Jésus reviendra victorieux. Dieu utilise des hommes qui peuvent déjouer, retarder et faire obstacle à sa volonté. Néanmoins, je ne crois pas que quelqu'un puisse totalement l'empêcher de se réaliser, mais on peut certainement l'entraver. Tout particulièrement quand il s'agit de sa volonté pour notre vie. Ceux qui croient que seul ce que Dieu ordonne arrive se mettent en colère quand je prêche cela. Je ne comprends pas pourquoi. Selon leur logique, si on ne peut faire que ce que Dieu ordonne, alors je ne peux enseigner que parce que Dieu me l'a ordonné. Ainsi, ces chrétiens qui croient que Dieu est à la base de tout ce qui arrive se contredisent eux-mêmes en disant que ce n'est pas la volonté de Dieu que j'enseigne cela. À vrai dire, Dieu n'est pas derrière tout ce qui se dit ou se fait. C'est pour cela que Dieu ne pouvait pas accomplir sa volonté sous l'ancienne alliance comme il a pu le faire plus tard par Jésus. L'ancienne alliance n'était qu'un moyen temporaire de s'adresser à la race humaine. Elle n'allait durer que jusqu'à la venue de Jésus. C'est triste à dire, mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne font pas la distinction entre l'ancienne et la nouvelle façon de faire de Dieu. À l'époque où la loi de l'Ancien Testament fut donnée, les gens se leurraient au sujet du péché. Ils n'en évaluaient pas les profondeurs. À contre-cœur, Dieu dut finalement dire « Admettez-le, vous avez besoin d'aide ». Ainsi, il institua la loi mosaïque qui mit en évidence la corruption des cœurs. La loi prouvait que les gens étaient absolument incapables de se sauver eux-mêmes. De ce fait, ils furent obligés de se retourner entièrement vers Dieu pour le salut. Les sacrifices d'animaux dans le temple étaient un type du sacrifice de sang de Jésus sur la croix. Comme je l'ai dit auparavant, la loi elle-même ne révélait pas la vraie nature de Dieu. Dieu ne voulait pas la mort de celui qui ramassait du bois le jour du sabbat, comme il ne désirait pas que Josué détruise toutes les villes. Mais les profondeurs du péché étaient si terribles en Canaan qu'il fut obligé d'imposer son standard parfait. Il le fit appliquer à la lettre pour montrer à quel point le péché était mortel, de sorte qu'il n'était plus possible de se méprendre sur le fait que Dieu n'acceptait aucune forme de péché. La loi imposée aux hommes ne leur donna qu'un aperçu de la nature de Dieu. Il était saint et rien d'impur ne pouvait subsister en sa présence. Jésus, lui, révéla entièrement et complètement l'image de Dieu. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, verset 17. Dans le Nouveau Testament, Jésus révéla la nature parfaite de Dieu. Jésus s'adressa à la femme prise en flagrant délit d'adultère. C'était pire que de ramasser du bois le jour du sabbat, en lui faisant preuve de grâce et de pardon au lieu de la juger et de la tuer conformément à la loi. Voilà le vrai caractère de Dieu. Dieu a pu se manifester tel qu'il est vraiment au travers de Jésus. Bien que Jésus introduisît le ministère de la grâce, nous essayons encore de servir Dieu sous le régime de la loi, parce que nous n'avons pas renouvelé nos pensées. Seigneur, si je fais un certain nombre d'œuvres, alors tu feras attention à moi et tu me récompenseras par un exaucement, n'est-ce pas? Que nous l'admettions ou pas, un jour ou l'autre, chacun de nous a eu cette attitude légaliste de l'Ancien Testament qui s'est immiscée dans notre relation avec Dieu et a rendu impossible le ministère de Christ dans divers domaines de notre vie. La Bible dit qu'en le faisant, nous sommes déchus de la grâce. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, versets 2 à 4. Être déchu de la grâce ne signifie pas avoir perdu le salut. C'est ne plus vivre sous la grâce de Dieu, mais sous la loi. C'est compter sur nos efforts et sur notre capacité. Jésus n'est plus notre sauveur parce que le fruit de nos efforts nous ont justifiés devant Dieu. Quand les croyants disent « Seigneur, regarde ce que j'ai fait », Christ ne peut plus pourvoir à leurs besoins. Cette attitude frustre la grâce et Dieu se tient à distance quand il communie avec eux parce qu'ils sont plus conscients de la connaissance du bien et du mal que de sa grâce. Connaissance que donne la loi. Vous souvenez-vous de Romains 3, verset 20 ? À cause de la loi, quand nous avons mal fait ou pas fait aussi bien que nous aurions dû, nous avons l'impression de mériter d'être punis par Dieu. Gloire à Dieu, grâce au sang de Jésus, nous n'avons pas à recevoir ce que nous méritons. Sans cesse, des gens viennent me voir en disant « Ce n'est pas juste. Comment se fait-il que Dieu exauce la prière dans telle et pas la mienne ? Je veux ce qui est juste. » Cela montre qu'ils ne comprennent pas la grâce de Dieu. Ils réclament justice alors que c'est par miséricorde qu'ils ne reçoivent pas ce qu'ils méritent. Dans un sens, ne rien obtenir est mieux que d'obtenir justice. Parce que si nous obtenions vraiment ce que nous méritions, nous en prendrions tous pour notre grade. À une époque, je développais des photos dans un studio professionnel. Quand les clients venaient retirer leurs photos, ils s'exclamaient « Oh, cette photo ne me fait pas justice !» Je me disais « Hé, ce n'est pas de justice que vous avez besoin, c'est de miséricorde. Dieu merci, il a manifesté sa miséricorde par Jésus-Christ. De nombreux croyants disent « Non, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri. Je ne comprends pas pourquoi Antel a eu une voiture neuve alors que moi, je ne l'ai toujours pas reçue. J'ai fait ceci et j'ai fait cela. J'ai fait tant de bonnes choses, ce n'est vraiment pas juste. » Ce genre de paroles, dans la bouche des croyants, révèle tout bonnement qu'ils ne connaissent pas Dieu. En fait, en dépendant de leurs œuvres pour recevoir de Dieu, ils frustrent sa grâce. Tout ce que les croyants obtiennent, c'est par la grâce de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Éphésiens 1, verset 3, dit que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Mais elles nous viennent toutes par la grâce au moyen de la foi, comme l'explique clairement Éphésiens 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. La réponse à une prière n'est pas le fruit de nos propres efforts. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons frustrer la grâce de Dieu et rester dans nos besoins au lieu de voir la provision. La réponse vient uniquement parce que Jésus l'a payée de son sang. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, verset 1. Tout le livre aux Romains n'est ni plus ni moins qu'un enseignement sur le salut obtenu par la grâce au moyen de la foi. Il ne s'obtient ni par des efforts, ni par l'observance de la loi de l'Ancien Testament, ni par de bonnes œuvres. Paul dit que nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons été justifiés par la foi. C'est le seul moyen d'avoir réellement la paix avec Dieu. Savez-vous également que c'est le seul moyen qui permet d'entrer avec hardiesse dans la présence de Dieu? C'est en ayant une solide compréhension de la grâce et en y ayant foi qu'on entre dans sa présence. Si vous vous approchez de Dieu sur la base de vos bonnes performances, vous ne l'approcherez que très rarement. Beaucoup basent la qualité de leur relation avec Dieu sur leur performance, et c'est une erreur. Si vous aviez dû dépendre de vos performances pour être sauvé, vous n'auriez jamais été sauvé. Quand les pécheurs réalisent leurs conditions par le moyen de la loi ou par la bonté de Dieu, ils ne s'attendent qu'à Jésus pour être sauvés. Mais après la nouvelle naissance, d'une façon ou d'une autre, insidieusement, ils acceptent de croire que Dieu n'interviendra en leur faveur qu'en fonction du degré de leur sainteté. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Il est arrivé que des malades viennent me trouver pour recevoir leur guérison en disant « Frère, prie pour moi. Je ne comprends pas ce qui ne va pas. J'ai jeûné et j'ai prié. Je vais à l'église, j'étudie la parole, je paye mes dîmes. Je fais tout ce que je sais devoir faire et malgré cela, je ne comprends pas pourquoi Dieu ne me guérit pas. » En parlant ainsi, ils révèlent qu'ils s'attendent à ce que Dieu les guérisse à cause de ce qu'ils ont fait. Ils disent « Seigneur, regarde ce que j'ai fait de bien. Tu vas me guérir, n'est-ce pas ? Dieu ne nous guérira pas à cause de ce que vous avez fait. » Certains sont peut-être déçus et pensent « Eh bien, c'est vraiment injuste, parce que j'en ai fait beaucoup. » Mais si vous aviez la moindre idée du standard de Dieu, vous réaliseriez qu'aucun de nous n'aura jamais l'envergure de s'y mesurer. C'est la grâce et la miséricorde de Dieu qui apportent la paix, la joie, la prospérité, la guérison et toutes les bénédictions. Tout est fondé sur la sainteté de Jésus, pas sur la nôtre. D'où viennent ces enseignements qui parlent de performance? Croyez-le ou pas, de la parole de Dieu. d'une mauvaise compréhension de la manière dont Dieu utilisait la loi. Dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, toutes les bénédictions de Dieu sont conditionnelles. Elles contiennent la conjonction « si ». Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le verset 1 dit qu'il faut pratiquer tous les commandements de Dieu, pas seulement certains. Si vous preniez le temps d'y réfléchir, vous réaliseriez que vous ne pouvez pas tous les observer. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet en péché. Jacques 4, verset 17. Péché va plus loin que faire ce que vous savez être mal. Dieu ne vous a-t-il jamais dit d'aimer votre prochain comme vous-même? Je vous garantis que vous n'avez jamais respecté parfaitement ce commandement. Vous savez que vous devez mieux faire. Si vous considérez le péché comme Dieu le voit, aucun de nous n'est à la hauteur, excepté Jésus. Aucun de nous n'a été trouvé pur dans sa chair, ses actions et ses performances. Et aujourd'hui encore, nous manquons la cible. Personne ne peut accomplir Deutéronome 28, verset 1, excepté Jésus. Et ceux qui mettent leur foi dans ce que Jésus a fait au lieu de la mettre dans leur propre performance. C'est ce que montre Romains 5, verset 1. Nous avons la paix avec Dieu si nous sommes justifiés par la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ et non dans nos œuvres. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien? Romains 5, versets 2 à 7. Lorsque le verset 2 parle de l'espérance de la gloire de Dieu, il est question du retour de Jésus, du jour où nous serons glorifiés avec lui. Paul loue Dieu pour ce jour où nous serons comme il est, parce que nous le verrons tel qu'il est. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. En outre, Paul dit que nous pouvons nous glorifier dans les tribulations présentes. Nous pouvons glorifier Dieu au beau milieu de nos épreuves et de nos tribulations. Paul établit une comparaison. Non seulement je me réjouis en pensant à la douceur de vivre qu'on aura au ciel, mais dans les temps difficiles, je me remémore ma victoire actuelle, acquise en Christ. Gloire à Dieu. Paul cherche à faire ressortir le point suivant. Vous souvenez-vous de votre salut, de sa mort pour vous? C'est cette conscience des œuvres de Dieu accomplies pour vous qui donne l'assurance de la victoire dans les tribulations. Paul brosse une comparaison naturelle quand il demande « Connaissez-vous dans votre entourage quelqu'un qui vous aimerait au point de mourir pour vous ? Si vous étiez juste, si vos performances étaient à la hauteur, vous trouveriez éventuellement quelqu'un, mais peu le feraient, parce que la nature humaine n'est pas encline à faire ce genre de sacrifice. » Puis au verset 8, Paul établit en contraste avec ce qui vient d'être dit précédemment. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu n'a pas pu nous aimer en fonction de nos œuvres, puisque nous étions encore des pécheurs. En général, nous détestions Dieu. nous suivions notre propre voie et nous vivions dans le péché. Lorsque Dieu nous a offert son don le plus précieux, le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous a pas donné Jésus en fonction de nos mérites ou de nos performances. Au beau milieu de notre péché, Dieu nous a donné la preuve de son amour. Dans Romains 5, verset 9, Paul conclut. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. En d'autres mots, si vous acceptez la preuve de son amour envers vous, preuve démontrée par la mort de Jésus, quand vous étiez encore pécheurs, réalisez que vous avez toutes les raisons d'échapper à sa colère puisque vous êtes justifiés par son sang. Saisissez-vous l'explication de Paul. Il dit que si vous avez pu accepter l'amour, la grâce et le pardon de Dieu quand vous étiez pécheurs, vous devriez être encore plus capable de les recevoir maintenant que vous êtes son enfant. Maintenant que vous êtes chrétien, vous devriez être plus libre de vivre dans la grâce de Dieu que lorsque vous êtes venu à lui pour le salut. Malheureusement, c'est souvent le contraire. Pour preuve, rappelez-vous de votre façon de penser du début de votre nouvelle naissance. Imaginons que vous soyez en inconverti et que vous me demandiez « Andrew, je voudrais naître de nouveau. Voudriez-vous prier pour moi ?» Imaginons que dans la prière, Dieu me donne une parole de connaissance qui révèle que vous vivez dans l'adultère et que vous commettez certains autres péchés. Que répliqueriez-vous ? Oui, c'est vrai. Je sais que j'ai besoin d'être sauvé. En entendant ces paroles, vous vous jetteriez dans les bras de Jésus et vous dépendriez entièrement de lui pour recevoir le pardon de vos péchés. Vos péchés, mis à jour, ne vous auraient pas empêché de recevoir le salut parce que vous auriez compris que Jésus est venu sauver les pécheurs. Vous auriez reconnu que Jésus est venu vous sauver de votre péché et non pas vous sauver parce que vous auriez eu la victoire sur le péché. Le salut ne se reçoit que par grâce. Poursuivons l'exemple. En tant que chrétien, vous me demandez de prier pour votre guérison et, en le faisant, le Seigneur me révèle votre situation d'adultère. Savez-vous ce que la plupart des chrétiens remplis de l'Esprit, parlant en langue et versés dans les Écritures, répondraient ? Je le savais. Je savais que Dieu ne voulait pas me guérir. Maintenant je sais pourquoi rien ne marche pour moi. C'est parce que j'ai fait ceci ou cela. Un silence s'installe quand on aborde ce sujet. Ces chrétiens pensent. Hé, attends une minute. Crois-tu que Dieu guérirait en adultère ? Ma réponse est, je crois que si Dieu sauve en adultère, alors il le guérit aussi. Non. Je ne suis pas en train de promouvoir l'adultère ni aucun autre type de péché. Mais je dis que si vous avez accepté l'amour de Dieu en tant qu'inconverti, maintenant que vous êtes son enfant, vous devriez l'accepter encore plus. Dieu vous aime toujours autant, et ce, en dépit de ce que vous avez fait. Malheureusement, les gens croient souvent l'inverse. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Si un alcoolique venait à une réunion et s'asseyait au fond du sanctuaire, en tombant presque de sa chaise, la plupart des chrétiens iraient le voir en disant « Frère, Dieu vous aime. Dieu a quelque chose de meilleur pour vous. Il veut changer votre vie. » Il manifesterait de l'amour à cet alcoolique et il y répondrait. Il l'aimerait en dépit de son péché. Répondant à ce genre d'amour, il naîtrait de nouveau. Mais malheur si, après avoir été sauvé, cet alcoolique revenait ivre à l'église. Dieu l'aimait quand il était pécheur et alcoolique, mais s'il continue à boire après la nouvelle naissance, que Dieu s'y oppose. La plupart des chrétiens ne lui offriraient pas le même amour inconditionnel. N'est-ce pas anormal ? La grâce n'est pas qu'à la disposition des perdus. Les chrétiens doivent aussi vivre par elle. Continuer avec Dieu comme dès le départ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui. Colossiens 2, versets 6 à 7. Nous devons continuer à marcher dans le Seigneur en utilisant le même principe que celui que nous avons utilisé pour recevoir le salut. Puisque nous n'avons pas reçu le salut grâce aux œuvres, pourquoi entrerait-elle en ligne de compte pour recevoir la guérison de Dieu? Ce verset biblique dit que nous devrions continuer avec Dieu sur la même base que celle du départ. Certains présument sans doute que j'encourage le péché. Non, ce n'est pas ce que je fais. Je hais le péché. Mais j'affirme que ce ne sont pas les bénédictions qui doivent motiver à vivre purement. Ces bénédictions ont été payées et pourvues par Jésus, pas par nos performances. Dieu n'intervient pas en notre faveur en fonction de nos performances. Si je vis pieusement, c'est parce que j'aime Dieu, que ça lui est agréable et que c'est dans ma nature de vivre ainsi. Je ne le fais pas pour obtenir quoi que ce soit de sa part, pas plus que pour mériter le salut. Lorsque vous arrivez au stade où, peu importe si vous recevez de Dieu ou non, vous ne voulez que l'aimer, lui obéir et vivre constamment dans l'intimité avec lui. Alors, non seulement vous surmonterez le péché, mais vous verrez aussi ses bénédictions se déverser dans votre vie. Combien de fois, avant votre nouvelle naissance, avez-vous jeûné, prié, étudié la parole, été à l'église et donné vos dîmes? Probablement aucune. Cependant, vous êtes certain de savoir pourquoi Dieu ne vous a pas guéri. Vous n'auriez pas agi à la perfection. Par exemple, vous n'avez pas lu votre Bible ou prié. Croyez-vous que le manque d'exaucement est dû à un échec quelconque? Je suis bien content que le salut ne soit pas le fruit des performances. Sinon, je ne serais jamais né de nouveau. Ni vous non plus d'ailleurs. C'est à cause de cette mentalité de performance que beaucoup ne sont pas guéris. Savez-vous qu'être guéri est aussi facile que naître de nouveau? Beaucoup ne voient aucune difficulté à naître de nouveau, parce qu'ils ont la foi dans ce que Jésus a fait pour eux. Ils savent que tout ce qui concerne le salut est basé sur ce que Jésus a fait. Leurs œuvres ne sont pas en point de référence. Ils n'approchent pas Dieu sur cette base. Quand les inconvertis sont sur le point de recevoir le salut, ils ne pensent pas que leur performance entre en ligne de compte. Pourtant, quand il s'agit de guérison, de prospérité, de délivrance, de réponse à la prière, etc., beaucoup de chrétiens croient qu'ils recevront de Dieu en fonction de leurs accomplissements. J'ai entendu dire « Frère, je crois qu'il faut observer les 10 commandements et vivre une vie sainte pour que Dieu agisse en notre faveur. » À celui qui fait cette réflexion, on peut lancer ce défi. Êtes-vous parfait? Avez-vous des péchés? Y a-t-il des problèmes dans votre vie? La plupart du temps, il répond frère, je ne prétends pas être parfait, je commets encore des erreurs. Dans ce cas, comment peut-on affirmer que Dieu n'agit en notre faveur qu'en fonction du degré de notre sainteté? La réponse habituelle est non, je ne dis pas qu'il faut être parfait. En fait, il sous-entend que Dieu donne des notes. Il insinue que, personne n'étant parfait, Dieu doit tout de même exaucer la prière de quelqu'un, comme s'il avait un quota à atteindre. Alors, il prend les 10 premiers. Ce chrétien s'imagine sans doute qu'il figurera dans les 10 premiers s'il obtient 10/20 à l'examen. Dieu doit bien exaucer la prière de quelqu'un, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas comme cela que ça marche. La Bible dit que le péché est péché, Jacques 2, verset 10. Dit, car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Si vous avez été bon toute votre vie, mais que vous avez manqué un seul commandement, vous ne méritez rien de la part de Dieu. C'est ce que dit cette écriture. Nous ne devons plus nous approcher de Dieu sur la base de nos œuvres. Quand nous prions pour un besoin, nous devons nous présenter devant le Seigneur de la même manière que nous l'avons fait pour recevoir le salut, sur la base de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ. J'ai été élevée dans une famille chrétienne et suis née de nouveau à l'âge de 8 ans. C'est à cet âge que, pour la première fois, j'ai été convaincue de péché. Je n'en étais pas à mon premier péché, mais c'était la première fois que j'expérimentais la conviction de Dieu. À l'âge de 8 ans, j'ai su que j'avais délibérément transgressé contre Dieu. Plus tard, adolescent, on se moquait de moi parce que j'étais chrétien. Je ne faisais rien de mal, mais j'avais tellement changé que mon entourage voyait la différence. Ce fut une réelle conversion. Mes parents étaient membres d'une église baptiste. J'ai donc grandi en connaissant le Seigneur. Malgré cela, je n'avais pas vraiment été exposée à sa bonté, à sa grâce et à sa miséricorde. Au lieu de cela, on m'avait martelée avec des « Tu dois vivre pieusement, tu dois faire ceci, sinon Dieu ne te bénira pas. » Toute ma vie n'a été que performance pour essayer d'obtenir les bénédictions de Dieu. J'étais tourmentée. Si vous l'avez vécu, vous savez de quel tourment je parle. Quand on doit fournir tous les efforts possibles pour gagner la faveur de Dieu. À cause de cela, je n'ai jamais prononcé un gros mot. Je n'ai jamais bu de vin. Je n'ai jamais fumé une cigarette. Je n'ai jamais fait ce qu'on dit être mal. Il n'empêche qu'avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'allais quand même droit en enfer, comme tous les autres. Qui veut être le meilleur pécheur qui soit jamais allé en enfer? J'avais peut-être moins péché que les autres, mais comme eux, j'avais besoin d'un sauveur. Vous pouvez faire ce qui est bien, vous faites peut-être mieux qu'avant, mais vous n'êtes pas parfait. Alors, n'essayez plus d'approcher Dieu sur la base de vos œuvres. Satan nous a vaincus parce que nous ne sommes pas restés fermement établis en Christ sur ce qu'il avait fait pour nous. Au lieu de cela, nous avons dit « Oh Seigneur, regarde ce que j'ai fait, n'est-ce pas suffisant ?» Et Satan a répondu « Non, ce n'est pas assez, tu n'es qu'en bon à rien. Tu n'as pas fait ceci et tu n'as pas fait cela. » Ainsi, nous sommes entrés dans la catégorie de ceux qui tentent de gagner les bénédictions de Dieu par des œuvres. Ce n'est pas scripturaire. Si Deutéronome 28, versets 15 à 68, parle des malédictions qui s'abattent sur ceux qui n'accomplissent pas 100% des commandements, pas uniquement 99%, mais tous, Galates 3, verset 13, dit aussi que ces malédictions ne peuvent atteindre les croyants. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». La loi dit que Dieu infligera des tumeurs, des jaunisses, des inflammations à ceux qui désobéissent. Mais souvenez-vous que les chrétiens sont rachetés de cela. Je sais que Dieu ne m'infligera pas ces maladies parce que j'ai été racheté de la malédiction de la loi. La plupart des chrétiens, même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, admettent avoir été racheté de la malédiction. Mais en même temps, il manque de hardiesse pour ordonner à Satan de ne pas faire obstacle aux bénédictions citées dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Ces mêmes chrétiens qui reconnaissent que Dieu ne les rend pas malades hésitent à réclamer les bénédictions de Dieu. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, ils savent qu'ils n'ont pas respecté les versets 1 et 2, d'après lesquels toutes les bénédictions sont conditionnels et basés sur le respect de tous les commandements. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28, versets 1 à 2. On a fait dire à ce passage « Je ferai ce qui est bien et les bénédictions de Dieu suivront. » Mais Dieu n'a jamais voulu que vous observiez tous les commandements dans le but de mériter ces bénédictions. Au contraire, il voulait vous montrer que vous n'aviez aucune chance d'obéir à tous. Il n'y a pas que 10 commandements. Saviez-vous que le croyant du Nouveau Testament est un sacrificateur? Voyez Apocalypse 1, verset 6. Le chapitre 22 du livre de Lévitique donne la liste des qualifications requises pour être sacrificateur. Saviez-vous que le sacrificateur de l'Ancien Testament ne pouvait pas avoir un grain de beauté sur le corps? Saviez-vous qu'il ne pouvait pas avoir un nez aquilin, cassé ou la vue basse? Si c'était le cas, il ne pouvait pas occuper cet office. Pourquoi Dieu fit-il preuve de tant d'exigences? Avait-il des griefs contre ceux qui avaient un nez cassé ou des grains de beauté sur le corps? Non, Dieu ne les rejetait pas, Dieu les aimait. Mais si vous voulez placer votre confiance dans votre propre perfection pour vous approcher de Dieu, il vous donnera sa notion de la perfection. Dieu n'a pas créé Adam et Ève avec des grains de beauté sur le corps. Ces défauts ne sont arrivés qu'après la chute. Dieu n'a pas créé Adam et Ève avec un nez aquilin ou cassé ou encore avec une mauvaise vue. Ils étaient parfaits. Or, sans cette perfection, vous n'étiez pas qualifié pour être un sacrificateur. Si vous combinez les deux alliances, vous ne serez jamais qualifié pour le salut. Dieu n'a pas fait mention des grains de beauté pour que vous les fassiez enlever par le docteur, mais plutôt pour que vous cessiez de croire en vous-même et dans votre propre perfection pour être sauvé. Dans Deutéronome 28, versets 1 et 2, il ne nous a jamais dit de passer le restant de notre vie à essayer d'être parfait. Comme nous l'avons vu auparavant, les commandements démontraient notre besoin d'un sauveur parfait. Je crois qu'il y a effectivement des bienfaits à obéir aux commandements de Dieu. À chaque fois que vous obéissez à Dieu, vous fermez la porte à Satan. Si vous obéissez à 50% des commandements de Dieu, vous fermez à 50% la porte à Satan. Et ça, c'est une bonne chose. Moins vous donnez de place à Satan, mieux vous vous portez. C'est bien de vouloir vivre dans la sainteté, mais rappelez-vous que dans votre chair, vous ne serez jamais parfait à 100%. Pour résumer, il faut chercher Dieu de tout son cœur, sans jamais mettre sa confiance dans ses œuvres. Dites simplement, « Père, concernant mon salut, ma guérison, mes finances, etc., je me fie à ta grâce et à ta miséricorde. » Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un prêcher. Pour être béni, vous devez obéir avec diligence à la voix de Dieu. Si vous n'êtes pas béni, c'est que vous n'êtes pas assez diligent. Tous les jours, parlez une heure de plus en langue, étudiez davantage la parole, faites ceci et faites cela. Il n'y a rien de mal à étudier la parole ou à prier davantage en langue, mais si vous le faites pour mettre la pression sur Dieu, pour qu'il vous bénisse, je vous promets que vous n'obtiendrez rien. Si votre motivation est « Seigneur, regarde ce que j'ai fait », alors agis. Vous vous fourvoirez parce que vous serez passé à côté du but de la loi. Les saints du Nouveau Testament devraient lire Deutéronome 28, versets 1 et 2, en réalisant que Dieu les bénit parce que Jésus a honoré et accompli tous les commandements du Père. Selon Romains 8, verset 4, Jésus, qui était parfait, s'est offert lui-même en sacrifice pour que la justice de la loi soit accomplie en nous. Grâce à Jésus, la justice de Dieu m'a été donnée afin que la justice de la loi soit accomplie en moi. Selon 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a point connu le péché a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devrions déclarer que tous les commandements sont accomplis puisque nous sommes maintenant la justice de Dieu. Les bénédictions sont nôtres et abondent dans notre vie à cause de ce que Jésus a fait. C'est ainsi que le croyant du Nouveau Testament doit le comprendre. Au lieu de cela, beaucoup disent « Oh Seigneur, je dois persévérer, je dois faire davantage, je dois mieux observer les commandements, je dois m'améliorer. » Non, ce n'était pas la raison d'être des commandements. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu a attendu au moins 2000 ans avant de les communiquer aux hommes. Il savait qu'ils se méprendraient. La vraie attitude néo-testamentaire que Dieu attend des chrétiens, c'est qu'ils sachent qu'il est amour et qu'il ne veut pas imputer leurs péchés. Dieu les a déjà jugés en Jésus. Le péché était en train de vous détruire, et Satan n'était pas seulement en train de vous détruire, mais aussi de vous envoyer en enfer. Alors, Dieu fit expiation pour le péché. Il envoya Jésus, l'agneau du sacrifice, et il porta votre péché afin qu'en mourant au péché, vous viviez pour la justice. Selon Hébreux 10, verset 1 et verset 10, ainsi que verset 14, vous avez été rendu parfait et sanctifié grâce à Jésus qui a porté votre péché. Vous ne devriez plus jamais avoir conscience de vos péchés passés. Lorsque vous communiez avec Dieu, vous n'avez pas à lui dire « Seigneur, je me sens si indigne. Je comprends que tu ne puisses pas me bénir. » Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Hébreux 10, versets 19 et 20. Par la route nouvelle et vivante que Jésus a inaugurée pour vous au travers de sa chair, vous pouvez vous approcher de Dieu avec hardiesse. Nous avons la hardiesse d'entrer dans le Saint des Saints à cause de Jésus-Christ. Nous nous approchons de Dieu comme le faisaient Adam et Ève avant d'avoir péché. Ne gardez pas votre attention sur vous-même ou sur vos échecs. Ayez une telle conscience de Dieu que même si vous étiez nu, vous ne le sauriez pas. Saviez-vous que ce privilège est nôtre et que c'est ainsi que Dieu voit les choses? Ça, c'est la vraie nature de Dieu. Dieu nous voit au travers de ce qu'a fait Jésus, ce qui probablement diffère de la façon dont on se voit soi-même. Nous avons tendance à considérer notre chair, nos erreurs et nos échecs, tandis que Dieu regarde à notre cœur. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité parce qu'il est esprit. Voir Jean 4, verset 24. Dieu voit votre esprit lorsque vous venez devant lui. Or, d'après Éphésiens 4, verset 24, vous êtes juste et saint dans votre esprit. Vous êtes pur et aussi saint que possible. Votre esprit, né de nouveau, ne sera jamais mieux que ce qu'il est maintenant. Votre esprit ne peut pas être souillé par le péché. Si vous péchez, votre esprit n'est pas affecté. Votre esprit est saint, pur et juste, tel qu'il le sera au ciel pour l'éternité. Il est parfait. Il est à l'image de Dieu et à sa ressemblance. 1 Jean 4, verset 17 dit « Tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » C'est ainsi que Dieu vous voit, c'est ainsi que vous êtes. Aussi, quand vous vous présentez devant Dieu pour être pardonné d'un péché ou tout simplement pour passer du temps avec lui ou pour l'adorer, vous vous tenez devant lui dans la justice de Jésus-Christ.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.